journal d'Alexis Morel. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est à la une le cauchemar des centres de quarantaine à Shanghai. Lumière allumée 24 heures sur 24, pas de douche, masque obligatoire pour dormir. Un Français nous raconte ce matin, il y est toujours enfermé, bien que testé négatif au Covid. Quel avenir pour Jean-Luc Mélenchon après sa nouvelle défaite à la présidentielle? Vous l'entendrez, il ne devrait plus passer par les urnes. Tandis qu'à droite, les sympathisants LR ne se précipitent pas pour répondre à l'appel aux dons lancé par Valérie Pécresse. Nous serons à Nice. Au sommaire aussi, l'expulsion de 6 agents russes accusés d'espionnage en France. Et le paradoxe des écoles d'infirmières. Les lycéens les plébiscitent sur Parcoursup, mais beaucoup déchantent quelques mois plus tard.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, l'ancien maire PS de Paris, Bertrand Delanoë.
France Inter.
Alors, tour Alexis, les États-Unis s'inquiètent des conditions de confinement à Shanghai.
À tel point que Washington ordonne ce matin le rapatriement des employés de son consulat situé dans la mégapole chinoise. Confrontés à une vague de Covid sans précédent, les autorités locales ont bouclé la ville de manière extrêmement stricte. Face à la colère croissante des habitants, de rares quartiers retrouvent un peu de liberté ces dernières heures, mais la grande majorité reste sous cloche, interdit de sortir, difficulté pour se nourrir. Quant aux personnes positives, elles sont envoyées dans des centres de quarantaine et là, le séjour a des allures de cauchemar. Un expatrié français de 28 ans le vit très concrètement depuis une semaine. Il témoigne auprès de notre correspondant Sébastien Berriot.
C'est un centre de congrès qui a été reconverti par les autorités, transformé en ce que Thomas appelle un camp de quarantaine avec des centaines de lits en bois, côte à côte sur 3 étages. Le quotidien est difficile, surtout la nuit.
Le plus compliqué, c'est les lumières qui restent allumées 24 heures sur 24. C'est des lumières industrielles. Psychologiquement, c'est extrêmement dur. On n'a pas de fenêtre pour respirer l'air frais ou même, je peux même pas voir si c'est jour ou nuit, là. Les gens, comme ils sont malades, ils toussent énormément et ils crachent toutes les 3-4 secondes. C'est ce qui me réveille la nuit et c'est pour moi le pire. C'est les crachats, le bruit. C'est vraiment répugnant.
Après avoir été testé positif, le Français a été emmené sans son consentement dans ce centre de quarantaine aux conditions d'hygiène plus que précaires.
Malheureusement, on n'a pas accès à des douches. On se lave comme on peut avec le robinet. Je me suis lavé les 2 premiers jours au gel hydroalcoolique. C'est extrêmement dur. J'ai même pensé à m'échapper parce que je me suis dit ça ou la prison, je pense pas que je verrai grande différence. Mais bon, je me suis raisonné après. Il faut essayer de rester calme. Et c'est très dur, surtout le matin parce que tout le monde est tendu.
Le masque est obligatoire 24 heures sur 24, même pendant le sommeil. Thomas ne sait pas quand il pourra sortir. Il a bien été testé négatif à au moins 3 reprises. Mais pour le moment, il n'a toujours pas reçu d'autorisation pour partir. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
23 000 nouveaux cas de Covid recensés hier en Chine. Bien moins qu'en France, où en moyenne, on recense toujours plus de 130 000 contaminations quotidiennes ces 7 derniers jours.
En Ukraine, 7h32, Mariupol est sur le point de tomber entièrement aux mains des Russes.
Et cette question cruciale ce matin, la Russie a-t-elle utilisé des armes chimiques dans cette ville stratégique du sud-est ukrainien? Des témoignages sur place, venant notamment du controversé régiment ukrainien Azov, évoquent une substance toxique larguée par drone, des personnes souffrant de problèmes respiratoires, mais aucune confirmation à ce stade. Le Royaume-Uni a lancé une enquête. Dans ce contexte, la France annonce l'expulsion de 6 agents russes accusés d'espionnage sous couverture diplomatique. Ça fait suite, Emmanuel Leclerc, à une longue enquête de la DGSI. Enquête débutée avant la guerre d'ailleurs.
Cette opération menée dimanche, confie un proche du dossier, c'est le domaine le plus sensible opéré par la DGSI, sans vouloir préciser s'il s'agit de contre-espionnage économique et industriel, militaire ou à caractère politique et électoral. C'est une enquête d'initiative du service, précise cette même source, une opération d'entrave majeure au long cours depuis des mois et des mois face à des agents russes qui emploient des techniques très élaborées, très rodées. Une autre source rappelle que le contre-espionnage français, comme ses homologues européens, ont remis l'espionnage russe au cœur de leur surveillance, surtout depuis l'affaire Skripal, l'empoisonnement en 2018 d'un ancien transfuge du KGB devenu espion britannique. 4 espions russes avaient été expulsés. Cette fois, ce sont 6 agents supplémentaires, en plus des 35 diplomates renvoyés la semaine dernière. Ce sont également les agents du contre-espionnage en France qui ont fourni à Bercy, au début du conflit en Ukraine, une cartographie des intérêts russes en France, économiques ou immobiliers.
un départ à 64 ans plutôt que 65. Pourquoi pas un référendum sur le sujet? Emmanuel Macron se dit prêt à bouger sur son projet de réforme des retraites. Première concession du président candidat à 12 jours maintenant d'un second tour qui s'annonce serré face à Marine Le Pen. Il est attendu aujourd'hui en Alsace. Les deux finalistes de cette présidentielle ont dans le viseur les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui détiennent les clés du second tour. Mais le patron de la France Insoumise, lui, ne compte pas faire de vieux os après sa troisième défaite à la présidentielle. À 70 ans, il veut passer la main. Maintenant, c'est à vous de faire, a-t-il lancé à ses militants dimanche soir. Pas de nouvelles fonctions électorales en vue pour l'instant. Alors, quel avenir pour Jean-Luc Mélenchon, Laurence Perron?
Une page se tourne, certes, mais Jean-Luc Mélenchon est un traumatisé du 21 avril 2002.
J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après...
Ça, ça n'est pas du tout l'insoumis, qui depuis plus de 10 ans a construit pied à pied un parti, la France Insoumise, un mouvement, l'Union Populaire, une revue, l'Air du Peuple, et un think tank, la Fondation La Boétie, taillé éventuellement pour lui en cas d'échec présidentiel. Il ne sera pas candidat aux prochaines législatives. Il a d'ailleurs adoubé pour sa succession à Marseille Manuel Bompard, son directeur de campagne. Les Insoumis entretiennent toutefois encore un peu le doute, notamment parce que les négociations avec les partenaires de gauche ne font que commencer. Et il s'agit cette fois de ne pas réitérer la faute de 2017, faire cavalier seul. Parce que si le PS ou les écologistes ne sont pas en capacité aujourd'hui d'espérer un groupe à l'Assemblée nationale, ça n'est pas une très bonne nouvelle pour les Insoumis. Il va leur falloir des alliés pour s'opposer au futur gouvernement. On rappellera d'ailleurs que pendant tout le quinquennat, socialistes, communistes et insoumis au Parlement ont travaillé en très bonne intelligence.
Chez les Républicains, on s'est mis d'accord sur une ligne pour le second tour. Pas de voix pour Marine Le Pen, ce qui laisse plusieurs choix possibles. Et les sénateurs s'en emparent. Gérard Larcher votera Macron. Bruno Retailleau optera pour le vote blanc. L'autre urgence est financière. Il faut boucler les comptes de la campagne d'ici un mois, sans remboursement de l'État, faute de score suffisant dimanche. Alors Valérie Pécresse lance un appel aux dons pour combler une dette de 7 millions d'euros. Mais les électeurs LR vont-ils y répondre? C'est mal parti à entendre ceux que vous avez rencontrés à Nice, Sandrine Etoa-Handeg.
Valérie Pécresse était la candidate de cœur de Franck.
Ça correspondait à mes idées, quoi, c'est ça.
Pour autant, ce sympathisant LR, depuis plus de 10 ans, ne compte pas débourser un centime pour l'aider.
Non, franchement non, parce que je paie déjà beaucoup d'impôts, je suis profession libérale, non, je suis désolé, je veux dire, ils prennent leurs responsabilités, ils s'engagent dans une voie politique, bon ben, ils savent qu'ils peuvent perdre, elle le sait à l'avance et donc elle paye, hein, je suis désolé.
Georges, un laborantin à la retraite, ne veut pas non plus entendre parler de cet appel aux dons.
Alors ils font ce qu'ils veulent, je ne suis pas d'accord du tout. Hein.
Louis Maronne, 19 ans, a voté pour la première fois dimanche. Il est engagé auprès des jeunes LR dans les Alpes-Maritimes, a pris sa carte en 2019. Il dit avoir conscience que c'est la survie politique et financière du parti qui se joue, mais il ne donnera pas d'argent.
Je ne vais pas soutenir le Parti Républicain aujourd'hui. Je suis adhérent, certes, mais ce n'est pas à moi de financer les dégâts d'une campagne. Elle a maintenant une dette qu'elle doit rembourser. J'espère qu'elle aura des dons. Ça ne sera pas mon cas. J'espère que le Parti Républicain va réussir à se relever par le biais des législatives. Localement, il y a encore des personnalités à droite et surtout, je pense qu'il y a des idées. Dany Snar, Éric Ciotti, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau.
Et au-delà des prochaines législatives, lui donne déjà rendez-vous en 2027.
Sandrine Etoa-Handeg à Nice, jour de verdict au procès de Nicolas Zepeda, ce jeune Chilien jugé à Besançon pour le meurtre de son ex-petite amie japonaise Narumi Kurosaki. L'accusation a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre celui qui a toujours nié être l'auteur de ce crime. Les lycéens de terminale avaient jusqu'à vendredi soir pour boucler leur dossier sur Parcoursup. Une longue attente commence maintenant jusqu'au verdict des établissements du supérieur début juin. Les écoles d'infirmières seront-elles plébiscitées cette année encore? L'an dernier, elles ont reçu près de 700 000 candidats. Quatre fois plus qu'il y a 4 ans. Mais la désillusion est parfois très rapide. 2 mois après la rentrée, 13% des étudiants avaient déjà jeté l'éponge cet automne, Victor Dolande.
Un peu perdu avant son bac, Tatiana a cherché une filière pour poursuivre ses études. Par défaut, concède-t-elle, elle coche des écoles d'infirmières dans Parcoursup.
L'image que je me faisais de l'école d'infirmières et l'image une fois qu'on y est, ça n'a rien à voir.
Et 2 mois à peine après la rentrée, elle renonce.
Les profs nous disaient que de toute façon, on allait gagner des salaires de merde, qu'on était des merdes. Tout ça, c'était quotidien. Je trouve que c'est pas normal. Enfin, il y a un minimum de respect à avoir entre élèves, professeurs ou tuteurs de stage. Ça m'a démoralisée.
Mathilde Padilla est présidente de la Fédération nationale des étudiants. étudiants infirmiers. Elle assure que dans 80% des cas, les étudiants abandonnent à cause de mauvaises expériences dans leur stage.
Il faut que tu sois dur parce que notre métier, il est dur, donc on sera dur avec toi pour que tu apprennes, pour que tu te forges un peu un caractère. C'est des pratiques qui sont très répandues. On peut regarder plein d'enquêtes de plein d'étudiants en santé qui ont dénoncé beaucoup de fois le maltraitance en stage et le bizutage. On va t'ignorer quand t'arrives le premier jour ou alors pas t'encadrer, pas t'accompagner.
Elle dénonce aussi un immense décalage entre la représentation idéalisée de la profession, à grand renfort de séries télévisées qui magnifient le métier d'infirmier, et la réalité souvent très dure sur le terrain. Mieux informer les lycéens avant qu'ils ne choisissent ce cursus et mieux encadrer les étudiants en stage sont deux axes prioritaires pour limiter ces abandons.
Merci d'écouter France Inter, il est 7h40. Qui accédera au dernier carré de la Ligue des Champions de foot?
Oui, la Ligue des Champions, voilà. Quart de finale retour ce soir, et parmi les clubs encore en lice, aux côtés des poids lourds habituels, les Espagnols de Villarreal, qu'on n'avait pas forcément vu venir à ce niveau de compétition, et qui ont déjà battu le Bayern 1-0. Villarreal, du nom d'une petite ville de la côte méditerranéenne, Cédric Guillou.
Comme en France, avec Auxerre ou encore Guingamp, c'est grâce à son club de football qu'on s'est placé Villarreal, 50 000 habitants, sur une carte d'Espagne. Située sur la côte est, à 70 km au nord de Valence, Villarreal doit toute sa renommée à son sous-marin jaune, le surnom de son équipe de foot. Fondée en 1923, longtemps au niveau régional, le club a gravi les échelons dans les années 90 et a notamment gagné la Ligue Europa la saison dernière, sous les ordres de l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Unai Emery.
J'ai toujours admiré ce club. C'est un projet stable de 23 ans. J'avais constaté cette reconnaissance quand j'étais au PSG et à Arsenal. Les gens connaissaient Villarreal.
De grands joueurs comme Sonny Anderson, Juan Riquelme, Diego Forlan sont passés là-bas. L'ancien Rémois, international algérien Aïssa Mandi, a rejoint Villarreal il y a 10 mois.
Quand Villarreal vous appelle, il n'y a pas à réfléchir. On sait aujourd'hui ce que le club représente, il est régulier, au haut niveau, il joue l'Europe chaque saison. Et quand mes agents m'ont parlé de l'intérêt de Villarreal, j'étais certain de signer pour ce club.
Un club qui, cette saison, a déjà sorti la Juventus Turin en Ligue des Champions.
Bayern, Villarreal, Real Madrid, Chelsea, quart de finale retour à partir de 21h. Et puis cette polémique au Brésil, l'armée y est moquée pour une commande un peu particulière. 35 000 comprimés de Viagra achetés pour ses soldats. Alors le gouvernement assure qu'ils sont destinés à traiter des patients atteints d'hypertension, mais ça n'empêche pas les internautes de s'en donner à cœur joie. Sur les réseaux sociaux, on voit passer par exemple des dessins de chars d'assaut avec le canon incurvé vers le bas.
Merci Alexis Morel, l'édito politique à suivre sur